Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous culture du mois d'octobre. Aujourd'hui, Amy va vous parler d'un roman graphique, Le journal d'Anne Frank, adapté par Harry Folman. Elle nous parlera aussi de Semi d'Aki Shimazaki. Frédéric nous parlera du royaume de Saguenay de Stéphane Bardon, puis de La Scandaleuse, le roman de Louise Labbé de Michel Peramore. Aurore nous parlera de La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz et aussi Les 24 saisons de Nanako de Pascal Motéki. Pour ma part, je vous présenterai L'éternel fiancé d'Agnès de Sarthe et Pachinko de Min Jin Lee. Mais tout de suite, je laisse la parole à Amy pour le journal d'Anne Frank.
Donc je vais vous présenter le Anne Frank's Diary, puisque ici je vais vous parler du roman graphique en anglais. Et donc 70 ans après la première parution du journal d'Anne Frank, écrit par Anne Frank, Harry Folman et David Polanski, respectivement scénariste et dessinateur de Vals avec Bachir, se sont emparés de cette œuvre magistrale pour l'adapter en roman graphique en anglais sur proposition du fonds Anne Frank. Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933. À Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu'en 1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Franks s'installent clandestinement dans l'annexe de l'immeuble du 263 Prisengracht, où Anne écrit son journal. Le 4 août 1944, la famille est arrêtée vraisemblablement sur dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en février ou mars 1945, peu après sa sœur Margot. Parue aux éditions Calmann-Lévy en même temps que l'intégrale des œuvres de la jeune fille, cette nouvelle version rend particulièrement vivant Anne Frank et sa famille et redonne au journal une magnifique résonance intime. J'avais redécouvert ce roman l'année dernière avec ce roman graphique, qui pour moi permet de lui redonner vie ainsi qu'à sa famille, et est toujours aussi émouvant. Ce roman graphique a été également publié sous l'impulsion du fonds Anne Frank, détenteur des droits, qui explique que ce roman graphique voulait aussi toucher un public plus jeune et que ce roman graphique, je le précise, de 160 pages, ne reprend pas l'intégralité du journal. Je vous fais part également que l'adaptation cinématographique du roman sera projetée lors de la clôture du Festival du film de Compiègne le 17 octobre prochain. Et vous le retrouverez à la bibliothèque Saint-Corneille, dans le fond anglais, à la cote 813 FRA ANG, à la bibliothèque donc Saint-Corneille. Donc je passe la parole à mon collègue Frédéric.
Bien, donc je vais vous parler du Royaume de Saguenay, le premier roman de Stéphane Bardon. Quelques mots sur l'auteur. C'est un Orléanais d'origine. Il a mené des recherches sur les dynamiques interculturelles et plus particulièrement sur la mythologie iroquoise. Il exerce actuellement son métier au ministère des Affaires étrangères. Donc, ce roman retrace l'épopée de Jacques Cartier au Canada. Mais en fait, il se déroule essentiellement en France. Le roman débute à Saint-Malo en 1536. Le navigateur Jacques Cartier ramène 10 indigènes de son deuxième voyage exploratoire au Canada. Leur séjour au Royaume de France connaîtra un retentissement extraordinaire, au point que leur chef, Donnacona, seigneur du Canada, sera présenté en grande pompe à Sa Majesté François Ier. Mais ce qui intéresse surtout le roi de France, c'est que Donnacona lui révèle l'existence du royaume de Saguenay, une contrée fabuleuse aux montagnes d'or, d'argent et de cuivre, riche en gemmes et en épices précieuses. Il en a grandement besoin dans sa lutte pour la suprématie européenne et mondiale contre Charles Quint. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est qu'il permet de prendre conscience des enjeux et des conséquences de ces explorations, et notamment la domination des colons et surtout leur racisme à un moment où on le désigne pas comme ça, mais c'est très prégnant. J'ai aussi apprécié que ce roman dénonce ces vérités cruelles et surtout l'authenticité qui donne l'authenticité des récits qui lui donne des airs de témoignage. Donnacona va croire jusqu'au bout qu'on le reconnaisse comme un roi égal de François Ier, et en fait, ce ne sera jamais le cas. Voilà. C'est un vrai coup de cœur, j'ai beaucoup apprécié ce roman.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Eh bien, bonsoir, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz. Alors, je vous parle de ce roman parce que j'ai été très touchée par l'écriture sensible et vraie d'Olivia Ruiz. Dans ce roman, d'ailleurs, qui aurait pu être une autofiction, l'auteure talentueuse dont c'est le premier roman mêle ses propres racines espagnoles, l'histoire avec un grand H et la romance qu'il faut pour nous embarquer, le temps d'une nuit, mais aussi d'une vie de souvenirs. La narratrice du roman hérite à la mort de sa chère abuela, sa grand-mère, de sa fameuse commode au tiroir de couleurs qui n'a cessé de nourrir ses fantasmes de petite fille. Et un à un, cette narratrice va ouvrir les tiroirs et y découvrir l'histoire bouleversante de cette femme qui l'a élevée et aimée comme sa fille. Elle va découvrir la force qui se cache sous les drames et le poids d'un héritage qui va bien au-delà d'une simple commode, avec aussi la légèreté des vérités qu'on ose enfin sortir du tiroir. J'ai trouvé que c'était une fresque haute en couleurs et en émotions. Je parle évidemment de couleurs chaudes, de celles qui, malgré les tragédies et la souffrance d'une vie, portent aussi avec elles les leçons du passé et l'espoir que l'avenir pourra être différent pour elle, qui a hérité de cette commode et de toute cette histoire, mais aussi pour sa petite fille à elle, dont on parle aussi dans le roman. J'aimais déjà beaucoup personnellement Olivia Ruiz en tant qu'artiste interprète. Et j'avoue que maintenant, je l'aime encore plus à la lumière de ce nouveau talent de conteuse qu'elle nous offre à travers ce roman.
J'ai beaucoup aimé aussi ce roman. Je trouve qu'elle a un grand talent de conteuse. Merci Aurore. Moi, je vais vous parler de L'éternel fiancé d'Agnès de Sarthe. Donc, c'est un roman qui est en lice pour les différents concours, et notamment le Goncourt, là pour cette rentrée. C'est le 10e roman d'Agnès de Sarthe. Alors, une femme réécrit son histoire et elle réalise qu'elle a passé sa vie à attendre de devenir elle-même sans jamais s'en approcher. Donc, la narratrice n'a jamais oublié la déclaration d'amour saugrenue qu'un petit garçon de 4 ans lui a dit lors d'un concert de Noël « Je t'aime parce que tu as les yeux ronds ». Elle l'a repoussé, mais elle l'a longtemps regretté. Ils ne cesseront d'ailleurs de se croiser tout au long des années. Il ne se souviendra pas d'elle, mais elle finira par l'aimer, parce qu'il la fascine. À chaque rencontre, sa propre vie lui paraît fade, et elle remet en question ses choix. Ce roman retrace ce cheminement de vie avec sensibilité et même de l'humour. Sa plume est entraînante, son style mélodieux et tout en nuances et surtout très élégant. Elle déroule son roman comme une partition de musique avec des sauts narratifs. C'est une histoire menée au gré des notes de musique avec un mélange de joie et de mélancolie. Les phrases, les réflexions et même certaines scènes touchent particulièrement juste. On s'y retrouve et on s'évade, bercé par l'intelligence de l'auteur. Il faut un talent immense pour retranscrire ces tranches de vie et en faire une musique enivrante qui nous transporte. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce roman, mais des vies ordinaires. C'est l'enfance innocente, les émois de l'adolescence, les aléas de la vie, ces instants qui filent et disparaissent, les occasions manquées, tout ce qui nous anime et reste dans nos mémoires. Elle nous emmène dans des digressions qui rappellent les ramifications de la pensée. Il est question de tous ces petits riens qui font la vie, des gestes quotidiens qui font tout un monde. En fait, Agnès de Sarthe ne parle pas seulement du temps et de la vie, mais elle les incarne. Et pour moi, c'est ça la grande littérature. On va faire une petite pause musicale avec La Femme, un titre extrait de l'album Paradigme. C'est le 3e album de ce collectif français. C'est un album qui revendique une ambiance cabaret, une fantaisie dansante. Et particulièrement ce titre, Nouvelle-Orléans, qui met de bonne humeur.
Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent pour le rendez-vous culture sur Graphite. Je vais vous présenter les 24 saisons de Nanako de Pascal Motéki. Alors, il s'agit d'un album illustré, plutôt à destination de la jeunesse, de prime abord, de par son format. Mais je dirais que c'est aussi à destination des adultes qui ont ce désir profond de reconnexion avec la nature et ce besoin de ralentir le temps. Il faut savoir qu'au Japon, il existe plusieurs calendriers, chacun avec ses spécificités. L'un d'entre eux est composé donc de 24 saisons, en plus des 4 saisons habituelles que nous connaissons bien. Nanako est une petite fille japonaise qui nous incite à l'observation du monde et de cette nature qui nous entoure pour partir à la découverte justement de ces 24 saisons. Saviez-vous qu'en septembre, au Japon, il y a une saison qui désigne le moment où l'on aperçoit la rosée blanche du matin ? C'est formidable. Personnellement, je l'ignorais, mais se trouve que Nanako, elle, le savait. Elle s'inspire même de ses observations pour écrire ses premiers haïkus, ces petits poèmes en prose japonais qui font 3 lignes. Si l'écriture de Pascal Motéki, auteur, est une écriture poétique, eh bien, ces images le sont tout aussi et s'accordent parfaitement du coup, dans cet album. L'illustratrice s'est lancée en écrivant ses premiers textes et c'est une délicate et harmonieuse réussite, je trouve. Donc voilà, je vous conseille les 24 saisons de Nanako de Pascal Motéki à découvrir à tout âge. Je laisse la parole à Frédéric.
Merci. Donc je vais vous parler de La Scandaleuse, le roman de Louise Labbé, de Michel Peyramore. Alors, quelques mots de Michel Peyramore, Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un romancier français. Il est presque centenaire. Ce sera bientôt notre nouveau Jean Anglade. Et il est né en 1922. En 1954, il publie son premier roman aux éditions Robert Laffont. Il publiera par la suite environ une centaine de romans, pour la plupart historiques. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire de France, en particulier à travers l'histoire de ses provinces. Il est également l'auteur de nombreuses biographies de personnages historiques, tels Jeanne d'Arc, Henri IV, Louis XVI ou Napoléon, mais aussi d'artistes comme Suzanne Valadon ou Sarah Bernhardt. Avec Claude Michelet et Denis Tillinac, il fonde dans les années 80 l'école Le Brive, dans la tradition du roman populaire du 19e siècle. Alors, cette histoire de Louise Labbé est très intéressante, car rien ne prédestinait Louise Labbé à devenir la plus grande poétesse de la Renaissance, hormis son talent et sa liberté de penser. Très tôt, elle apprend le maniement des armes auprès de son frère et l'accompagne dans une campagne militaire. Mais sur ordre du dauphin Henri, fils de François Ier, elle devra quitter cette expédition au plus vite. Intelligente et intrépide, la belle Cordière ne tarde pas à devenir célèbre dans le milieu littéraire lyonnais et le cercle de la Pléiade. Elle y déchaîne les passions et collectionne les amants. Nombre d'entre eux lui dédieront des vers enflammés. Clément Marot, Pontus de Thiars, Olivier de Magny, etc. Parfois accusée de sorcellerie, souvent traitée de catin, Louise a surtout vécu libre. Sa véritable faute a été de l'écrire, de donner une voix au désir féminin dans ses vers à la sensualité assumée. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que l'écriture est épurée et limpide, ce qui en rend la lecture très agréable. D'une plume élégante, Michel Peyramor a su nous restituer, on ne peut mieux, la figure d'une héroïne d'une incroyable modernité, ainsi qu'une grande partie de la vie lyonnaise du XVIe siècle, en ce temps de Renaissance.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Donc, nous allons rester un petit peu plus au Japon avec le livre numérique que je vous propose aujourd'hui, qui est le roman Semi d'Aki Shimazaki. L'auteur y évoque avec un regard plein de tendresse la maladie d'Alzheimer comme un agent révélateur de la vérité de l'amour. Elle s'est inspirée également donc, de la nature, avec comme emblème de ce nouvel opus une Abura Semi, la cigale dont les larves restent sous terre très longtemps, parfois jusqu'à 15 ans, avant de se développer dans l'air, pour un mois seulement, évoquant ainsi la brièveté de la vie. Dans Semi, on fait la connaissance de Tatsuo et Fujiko, les vieux parents d'Anzu. Ils vivent dans une résidence pour personnes âgées depuis qu'Anzu et sa famille ont racheté leur maison pour s'y installer. Leur fille et aussi leur fils cadet Nobuki leur rendent visite régulièrement. C'est bien ainsi après tout, nous ne sommes une charge pour personne, remarque Tatsuo. Fujiko montre depuis quelque temps les signes de la maladie d'Alzheimer. Elle ne reconnaît plus ses proches et finit par demander à ce qu'un paravent sépare son lit de celui de son mari, qu'elle prend pour son fiancé. Même si Tatsuo est agacé par les égarements de sa femme, il accepte de suivre les conseils des infirmières qui lui recommandent de ne pas contrarier sa fiancée. Ce gigantesque saut dans le temps va provoquer des révélations inattendues et donner une nouvelle chance, étonnamment, à leur couple. Aki Shimazaki a débuté avec Suzuran en 2020, un quatrième cycle dont Semi fait partie. Et ces 15 volumes peuvent parfaitement se lire individuellement ou dans le désordre. Et c'est là justement l'étonnant art de la construction que maîtrise Aki Shimazaki. Ici, elle nous confie un livre touchant et subtil qui décrit l'art délicat d'accompagner un être aimé. Elle nous peint avec justesse la dissolution d'un être aimé, les mille et un tracas de chaque journée, et dessine et suggère les bouleversements des équilibres au sein d'une famille et propose la tendresse comme modèle de soin.
Alors c'est un hasard total, mais nous sommes trois aujourd'hui à avoir choisi des œuvres qui se passent au Japon ou qui parlent du Japon. Alors moi c'est Pachinko, c'est le deuxième roman de Min Jin Lee. Donc Min Jin Lee a mis 30 ans à écrire cette fresque familiale ambitieuse entre la Corée et le Japon. On est au début des années 1930. La Corée est occupée par le Japon. Dans un village, Sunja, une jeune Coréenne de 15 ans qui travaille dans la pension que tient sa mère depuis la mort de son père, elle se laisse séduire par un homme d'affaires étranger et elle tombe enceinte. Lorsqu'elle lui annonce, elle apprend qu'il est déjà marié. Il lui propose de devenir sa maîtresse officielle. Elle refuse, mais pour éviter le déshonneur de se retrouver mère célibataire, elle accepte d'épouser un pasteur et elle le suit au Japon, à Osaka, à la recherche d'une vie nouvelle et meilleure. On va dès lors suivre cette famille sur 4 générations, sur près de 80 années, où elle va devoir affronter de nombreuses épreuves, à commencer par la discrimination omniprésente. Au Japon, les Coréens sont considérés comme des étrangers, des citoyens de seconde zone. Et l'auteur souligne toutes les difficultés à trouver sa place dans la société. On découvre le racisme, la cruauté, le mépris des Japonais envers les immigrés, qu'on appelle ici les Ainichi, les migrants coréens vivant au Japon. C'est un hommage à tous les sacrifices qu'ils doivent faire, au courage des femmes notamment, qui vont réussir à s'en sortir en restant soudées, en luttant pour garder leur culture. Et notamment par le biais du pachinko ici. C'est ce petit billard vertical, une machine de jeu, comme une machine à sous, qui se joue en arcade et qui va sauver la famille de Sunja de la misère. Ce roman nous peint précisément les conditions de vie de ces Ainichi. Il est ponctué d'éléments culturels. Il traite au passage de multiples thèmes comme les yakuza, l'homosexualité, les religions, notamment la minorité chrétienne coréenne. Ce roman est captivant, on ne le lâche pas. On est impressionné même par sa capacité à tenir en haleine, malgré l'ampleur du projet. Il fait quand même 600 pages. Et les années s'écoulent très vite, comme les chapitres. Les personnages sont nombreux. Cette saga est très facile à lire, tout en étant passionnante. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous rappelons que tout à l'heure, à 20h15, le Cinéclub à la Bibliothèque Saint-Corneille, avec le film de Truffaut, L'Argent de Poche, et le Festival du film de Compiègne du 11 au 17 octobre, avec le film d'ouverture lundi à l'espace Jean Legendre, Adieu Bonaparte, dans sa version restaurée de 2018. Pour la Bibliothèque Saint-Corneille, les films, ce sera le mercredi 13 octobre, Nager au-delà des frontières à 17h30. C'est un documentaire de Marianne Kramer qui retrace l'exploit de Philippe Croison, qui avait traversé la Manche à la nage alors qu'il était amputé des bras et des jambes à la suite d'un accident. Puis à 20h, mercredi 13, la projection du film de Martin Scorsese, Raging Bull. Et le samedi 16 octobre à 15h30, à la Bibliothèque Saint-Corneille, nous avons une rencontre avec Bruno de Stabenrath pour son livre « L'ami impossible ». Pour nos prochains rendez-vous culture, donc à la bibliothèque le vendredi 15 octobre, vendredi prochain, à 18h, et sur Graphite le 19 novembre. À très bientôt.